France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et pour cette dernière émission avant les vacances, rendez-vous au pays de Dominique Besnéard, l'agent le plus célèbre du cinéma français, devenu à son tour producteur de films et de séries à succès. Nous évoquerons ses amitiés musicales avec Lynn Renault, Sylvie Vartan, Jeanne Moreau ou Nana Mouskouri. Bienvenue dans un instant à Dominique Besnéard. En fin d'émission, Serge Laïc vous propose un divertissement estival. Mais d'abord, on s'échauffe sur un rythme de cha-cha-cha.
Je me sied.
Voilà, et vous dansez.
Pourquoi pas?
Merci beaucoup.
Oui, oui.
Vous êtes adorable.
C'est si bon.
Oh oui, oui.
Oh là là.
Vive la France.
Paris, un cha-cha-cha de l'excellent Norman Maine qui vient de ressortir dans un album croustillant. Voulez-vous cha-cha, le meilleur du cha-cha français entre 1960 et 1964? C'est sorti chez Born Bad Records.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais je vous l'ai dit, nous avons rendez-vous avec un invité qui va nous parler évidemment du monde du cinéma, puisqu'il a été l'agent de toutes les grandes stars françaises avant de devenir lui-même producteur de films et de séries. Et puis son histoire, c'est aussi celle d'un petit Normand passionné par le spectacle, amoureux de Sylvie Vartan ou de Marlène Jobert, sans savoir qu'il deviendrait plus tard leur ami. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Dominique Besnéard.
Dimanche matin, il prit dans son armoire, sans avoir à chercher bien loin, sa vieille veste noire. Mais monsieur le soleil tout à coup se réveille aussitôt. Oh, oh. Il se dit aujourd'hui les soucis sont finis, je vais sortir le gris qu'il était beau. Complet gris que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant on aurait dit que le printemps chantait pour lui, qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis. On n'a pas besoin d'aller loin, surtout quand on s'est plaire. Et quand elle apparut soudain, il fit ce qu'il faut faire. Et les voilà partis pour tout l'après-midi aussitôt. Oh, oh, que voulez-vous qu'elle fît devant un complet gris, sinon lui dire oui, qu'il était beau le complet gris que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant On aurait dit que le printemps chantait pour lui, qu'il était beau le complet gris, que ce jour-là il avait mis. Nul ne peut prévoir le destin, elle sut tellement lui plaire qu'il alla dès le lendemain la demander à son père. Mais n'ayant pas d'habit pour la cérémonie aussitôt, oh oh, elle lui dit: mon chéri, te fais pas de soucis, remets donc le gris. Qu'il était beau le complet gris, que ce jour-là il avait mis, et le temps justement pour lui plaire avait pris sa couleur la plus claire. En le voyant, on aurait dit que le printemps chantait pour lui, qu'il était beau le complet gris, que ce jour-là il avait mis.
Lynn Renault en 1947, le complet gris, paroles et musique de Loulou Gasté. Bonjour Dominique Besnéard. Vous l'aimez hein, ce complet gris?
Ah ouais, puis je suis content de commencer par Lynn, parce que Lynn... c'est un personnage que j'adore, je suis son ami, j'ai été son agent, et puis je suis son producteur, puisque j'ai fait pas mal de films avec elle, notamment l'année dernière, Meurtre à Bride-les-Bains, qui a été un grand succès sur France 3. Non, j'aime bien Lynn parce que... Alors moi, toujours, Lynn, c'est ma cabane au Canada, le chien dans la maison, mais il y a toute une catégorie de chansons que je trouve, mais... magnifique. Là, c'est l'impression d'un court-métrage, une histoire. Et puis moi, le complet gris, pour moi, c'est mon père, quand j'étais gamin, il mettait des complets gris.
Voilà, parce qu'il faut quand même préciser que bien avant que vous connaissiez Lynn Renault, c'était déjà un personnage de votre enfance. Vos parents allaient à Paris pour voir les revues avec Lynn Renault.
Oui, c'est-à-dire mes parents travaillaient tout l'été parce qu'ils étaient à Houlgate, ils étaient commerçants. Ils s'attribuaient quelques jours de vacances en octobre, après la saison, et ils allaient tout le temps à Paris, parce qu'ils avaient été à Paris, puisque nous, on est avec mon frère, on est né à Bois-Colombes. Mais donc, ils allaient au Casino de Paris. Voilà, et pour moi, ça. Lynn Renault, il ramenait le programme. Donc j'en ai trois parce qu'elle a fait trois revues.
Plaisir.
Et alors ma mère, elle découpait les photos parce qu'il y avait toujours un couple nu, vous savez.
Ouais.
Parce que c'était une revue quand même.
Ouais, bien sûr,
alors il y avait Lynn qui chantait, il y avait des boys, mais il y avait aussi un couple qui dansait nu. Et ma mère, elle coupait, j'ai retrouvé les programmes où ils sont amputés des pages pour pas que nous, de nos 6, 7, 8 ans, parce que c'était quand même une génération très prude, et donc ils n'avaient pas envie, voilà. Ça me rire.
Mais en tout cas, c'est merveilleux parce que beaucoup comme ça de personnages de votre enfance sont devenus plus tard vos amis, et vous avez été pour certains leur agent, etc. Mais très longtemps après, c'est quand même merveilleuse.
Oui,
quoi.
Ça, c'est l'impression d'avoir rêvé, d'avoir, comme je disais, dans la phrase d'Eliard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Ouais.
Et en fin de compte, moi, j'ai eu des rendez-vous, je me les ai fixés, je les ai prémédités et je les ai eus.
En tout cas, je suis très content que vous soyez là pour cette dernière émission de la saison, parce que c'est vrai que, bon, quand on parle de Dominique Besnéard, on pense tout de suite au cinéma, mais pour moi, vous êtes aussi un homme du spectacle. J'ai l'impression que le moteur de votre vie, c'est autant le spectacle au sens large que le cinéma en particulier.
Et surtout le théâtre, parce que la base de mon travail au début, c'était le théâtre, puisque j'étais à la Rue Blanche, en classe de régie, mise en scène. Je voulais faire de la mise en scène de théâtre. Peut-être que d'une façon personnel, et j'osais pas me l'avouer, je voulais peut-être être acteur, mais j'ai bien fait de pas passer le concours à la Rue Blanche pour être acteur, parce que je pense que je ne l'aurais pas eu, alors qu'en classe de régie mise en scène, comme j'étais assez quand même cultivé sur le théâtre et qu'on sentait que je ne vivais que pour ça, donc j'ai été reçu au concours, et c'était des concours, on devait en prendre 5, et donc j'ai eu ce concours, et ça m'a permis de prendre un chemin de traverse pour arriver à ce que je voulais faire après.
Voilà. Et puis la chanson, on va le voir, a donc été aussi très importante. Elle vous a accompagné tout au long de vos aventures. Et écoutez, je suis désolé, c'est obligé, parce que vous savez, il y a beaucoup d'opérettes dans cette émission. Alors on va commencer par remonter un peu dans le temps, dans vos toutes jeunes années, avec un petit extrait, vous allez voir pourquoi, de Vienne, chante et danse.
Thank you.
il est libre, mon cœur est bohémien, et pour qu'il vibre, il lui faut l'horizon, sans bornes, sans frontières, sans maison qui cache la lumière de son rêve immense et bleu comme la mer. Passe, il passe et ne revient pas sur ses pas. Mais quand autour du feu de camp dans la soie, le frisson de la passion saisit les filles aux yeux noirs. Mon cœur est tout prêt à se prendre, à se rendre à l'amour. Il pleure pour une bohémienne au regard de velours. Mais mon cœur bohémien est de la race qui passe et qui ne tient jamais en place. Il veut sa liberté, il ne pourrait soumettre sa fierté au pouvoir de qu'un maître. Révolté, jamais il n'admettra le roi. Mon cœur n'a peur de rien que d'être en cage. Mon cœur s'achève bien et bohémien.
Et c'était bien sûr Marcel Merquès, enfin je dis bien sûr au moins pour ceux qui l'admirent, il y en a quand même sûrement quelques-uns parmi nos auditeurs dans Vienne chanter danse, Théâtre Mogador 1967. Mais moi ce qui m'amuse c'est que 3 ans plus tard, au Théâtre de Caen, le tout jeune Dominique Besnéard, qui tient des fiches sur tous les spectacles qu'il va voir avec beaucoup d'attention, a noté C pour Vienne chanter danse, note moyenne on va dire, mais voilà, c'est pour montrer que vous étiez un adolescent passionné par les spectacles et vraiment déjà les regardant avec un regard presque de professionnel. Quoi.
Alors là, je me souviens, c'était souvent le dimanche après-midi, hein, puisque c'était déjà les yéyés qui allaient voir. Donc moi, j'étais curieux, puisque dès qu'il y avait de la musique, du spectacle. Donc je me souviens avoir vu ça, et puis peut-être un truc de Lopez avec ce couple. Alors ce couple, c'est drôle, parce qu'il pouvait incarner l'idéal de mes parents, qui était un couple. C'est-à-dire que ma mère, elle avait un peu les mêmes crans que Paulette Merval, un peu comme ça. Quand je revois les photos des communions, j'ai l'impression de voir Paulette Merval, comme ça, avec un peu Catherine Langer, vous voyez, ce côté... coiffure un peu crêpée et avec beaucoup de lac. Et donc, pour moi, c'était ça. Et en même temps, bon, moi, je voyais des spectacles.
C'est quoi l'idée quand vous alliez voir toutes ces pièces, ces comédies de boulevard, ces pièces de théâtre moderne, ces opérettes et que vous faisiez des fiches très consciencieusement?
Moi, parce que moi, je pensais que ça pouvait me servir. Et puis surtout, je voulais m'en souvenir. Ah oui. Parce qu'un des premiers souvenirs que j'ai eu au théâtre, c'est l'Aiglon au Châtelet avec Michel Leroyer qui jouait l'Aiglon. Et c'était aussi dans 69 peut-être. Et alors moi très vite, j'avais une marraine qui avait un peu d'argent et qui, et dont le mari était maire du 12e arrondissement. Donc dès que je pouvais, dès que mes parents, non, ben, pas à 10 ans, mais après 13-14 ans, j'allais au théâtre à Paris. Mon argent de poste, c'était pour aller au théâtre à Paris, voilà.
Parce qu'il faut dire, Dominique Besnéard, donc que vous avez grandi à Houlgate. Hein. Alors dans un certain sens, ce genre d'endroit, évidemment, dans les années 60, ça pouvait paraître un petit peu loin de tout, loin du monde du spectacle. En même même temps, c'est quand même des lieux qui, par l'histoire et par la proximité aussi de toutes ces villas, de tous ces Parisiens, vous raccrochez quand même
oui,
à quelque chose qui allait devenir votre monde.
Je suis d'accord, c'est que l'hiver, Houlgate, il n'y avait pas tous les RTT, il n'y avait pas les ongles, donc à partir d'octobre jusqu'à Pâques, c'était désert.
Ouais.
Les villas étaient fermées, il n'y avait pas toutes ces vacances, et donc c'était triste.
Mais vous avez quand même aperçu des tournages de films importants, par exemple, depuis les fenêtres du lycée.
Ah oui, ben notamment, presque du lycée, c'était sur la plage, parce que, oui, en fait, quand je m'en aperçois que j'ai eu beaucoup de chance, parce que la cliente préférée de ma mère, avec qui elle refaisait le monde, c'était Madame Lelouch, la mère de Claude Lelouch,
ah, voilà.
qui avait une maison à côté de Houlgate, et mon père allait la livrer.
Ah, ouais.
Et donc, je profitais toujours de monter dans la camionnette pour aller chez Madame Lelouch, parce que peut-être que je verrai un acteur, une actrice, un tournage.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et Madame Lelouch, elle a été... à chaque fois, j'ai de l'émotion en pensant à elle, parce que c'est la première des clientes de mes parents qui les a encouragées de me laisser faire.
Ouais.
Parce que mes parents, vous savez, dans les années 60... quand je suis arrivé à Paris en 73, c'était quand même pas si simple que ça.
Non, mais vos parents ont été très compréhensifs.
Et mes parents, ils étaient super. Pour ça que moi, j'ai encore ma mère qui a 96 ans. Je trouve que ils avaient quand même... Mais peut-être aussi, c'était des enfants de la guerre. Hein. Quand on voit tous les événements du 6 juin, tout ça. Moi, j'ai entendu ça raconté par mes grands-parents, parce qu'ils vivaient à Vire.
Ouais.
Donc, Vire, c'était vraiment en plein où les forces alliées ont débarqué, pas très loin. Donc, ils ont été libérés très vite.
Ouais.
Mais il y a eu tous les bombardements.
Ouais.
Vire a été bombardé, Caen a été bombardé. Donc moi, j'ai tous leurs souvenirs, avoir des amis qui sont morts et aussi le fait que, enfin, ils n'ont pas pu faire leur histoire d'amour dans une période de paix.
Ouais.
Donc ça, je pense que ça a facilité à ce que mes parents disent, nous, on a manqué ça et on veut pas empêcher qu'ils réalisent leurs rêves.
Alors, parmi les personnages de votre enfance, si j'ose dire, que vous avez retrouvé beaucoup plus tard, il y a Line Renaud qu'on a évoqué, mais il y a également Sylvie Vartan, essentielle. C'est presque la première.
Sylvie Vartan, pourquoi ça? D'abord, c'est le premier 45 tours que j'ai acheté chez Madame Agron à Houlgate, qui était une femme qui avait une librairie, une papeterie et qui vendait les journaux.
Ouais.
Donc, j'allais les acheter là-bas. Salut les copains. J'ai découvert Salut les copains grâce à ma sœur. Et donc, elle vendait des 45 tours. Et donc, dès que j'avais une récompense, je m'achetais un 45 tours. Et c'est vrai que Sylvie Vartan était pour moi peut-être une image embellie d'une sœur que j'aurais, parce que j'avais des rapports un peu compliqués.
Difficile avec votre sœur.
Avec ma sœur. Qui, parce que, à la limite, je n'en veux pas, parce que, on lui a dit, ça serait bien que tu aies un petit frère, elle en a vu deux arriver, donc.
Vous aviez un frère jumeau, oui.
Mon frère jumeau, comme il avait été malade à la naissance, on s'est occupé que de lui, on ne s'est pas occupé de moi. Mais tant mieux, hein, parce que j'ai pas souffert de la présence de mes parents. Mais ma sœur, il y avait une rivalité, elle trouvait ça, donc elle était très très sévère. Elle ne voulait pas me prêter son TEPAS, elle ne voulait pas que je fasse midi. Donc
TEPAS.
J'avais. Oui, mais le TEPAS, c'était voilà. Donc, et j'allais acheter. Le premier disque que j'ai acheté, c'est En écoutant la pluie, adaptation par Sylvie Vartan. Et voilà, c'était le premier 45 tours que j'ai eu.
Et en 1966, alors par amour et par pitié?
En 66, j'avais 12 ans, donc 12 ans, par amour, d'abord c'est une chanson. Parce que Sylvie a chanté quand même beaucoup d'adaptations.
Chansons américaines,
des fois
sûr.
Adaptées par...
Vin Buggy.
Et puis il y en avait d'autres, comme ça. Si, il y a Debout qui lui avait fait des chansons.
Jean-Jacques aussi.
Mais c'est vrai que par amour, par pitié, c'est une chanson vraiment importante qu'aurait très bien pu chanter Barbara. C'était quand même quelque chose... J'ai senti qu'il y avait un texte.
Pitié.
Par amour et par pitié, une très belle chanson, effectivement, de
Dominique Besnéard. Ouais, tu vois, ce que je me disais en la réécoutant, c'est, les orchestrations sont très bonnes, elles sont faites par Eddy Vartan.
Le frère, donc, de Sylvie, faut
rappeler. On a souvent jamais, quand on écoute les chansons françaises de l'Eurovision, elles sont quand même souvent très, très nulles. Et moi, ça serait pour moi, il faudrait peut-être la réadapter, faire une chanson pour l'Eurovision, là, on gagnerait peut-être. Parce que c'est une chanson que tout le monde peut fredonner. Et il y a comme ça, comme il y a un côté aussi un peu chanson d'église, presque, qui se fait un peu cantique.
Ah oui, c'est vrai. Ouais,
c'est
oui.
Une très très belle chanson.
Mais peut-être qu'on aurait intérêt à chanter en français à l'Eurovision aussi.
Ah bah ça, bah ça.
On est d'accord.
Moi je regarde plus, c'est ridicule. On est en train de se battre pour essayer de défendre les langues et voilà.
Oui, c'est un peu incohérent tout ça. En tout cas, oui, effectivement, une très belle chanson de 1966, signée Jean Renard et Gilles Thibault. Et alors, c'est un petit peu, d'ailleurs, Dominique Besnéard, la même histoire qu'avec Lynn Renault, puisque cette Sylvie Vartan, qui était un peu votre sœur imaginaire dans votre enfance, vous l'avez connue bien des années après, et vous l'avez même, elle aussi, un peu entraînée vers le cinéma.
J'ai été son agent, et c'est vrai qu'elle a fait quand même le film de Brissot, parce que Brissot était fou de Sylvie Vartan,
ouais.
Et j'ai tout organisé, et voilà, et donc elle a fait ce film, qui est un film, parce qu'après Brissot, le Paix à son âme, il vient de disparaître, a fait des films un peu trop sexués, et cette histoire, c'est quand même, il y avait eu avant Vanessa Paradis, dans son film précédent, le film précédent de Brissot, il y avait un carton, et L'Ange Noir, c'était un peu, il y avait du vertigo, c'est-à-dire il voulait que ce soit Kim Novak, et Dorès, Sylvie est très bien dans le film. Le problème, c'est que je sens que Sylvie aurait aimé peut-être plus tourner, mais c'est très compliqué en France de faire les deux, il y en a très peu qui ont fait les deux, ou au même moment, parce que quand on dit...
Godard avait pensé à elle pour certains
films. Il y a Godard, il y a pas seulement Godard, mais il y en a un qui a pensé à elle, et j'en ai la preuve, parce que des fois les gens oublient, mais quand il y a eu l'exposition sur Jacques Demy, il y avait une photo de son agenda de l'époque, quand il cherchait la chanteuse pour les Parapluies de Cherbourg, et il y avait son agenda en rendez-vous avec la liste des chanteuses ou actrices qu'il avait contactées, et sur Sylvie Vartan, il a dit plusieurs étoiles, ouais, c'est-à-dire qu'il l'a rencontrée, et puis voilà, ça s'est pas fait.
En tout cas, bon, Sylvie Vartan, que vous avez bien connue ensuite, vous êtes aussi allé la voir beaucoup tout jeune au spectacle, et vous l'avez même vue à l'Olympia, à une époque où les Beatles faisaient encore la première partie.
Non, c'est là, il faut remettre, non, parce que là, tout le monde ment dans cette histoire.
Ah bon ?
Heureusement que j'ai le programme qui est très, avec des tâches, parce que depuis le temps, et j'ai regardé, et j'ai dû faire tomber du café dessus. Mais dans le programme, c'était comme ça. Il y avait d'abord Pierre Vassiliou.
Ouais.
Il y avait certainement des acrobates à l'Olympia. Il y avait
oui, c'était un vrai musical encore, ouais.
Des acrobates. Ouais. Il y avait Pierre Vassiliou. Ensuite, il y avait Trini Lopez,
ouais,
qui avait un carton « Si j'avais un marteau ».
Ouais.
Il y avait un entracte. Et deuxième partie, commencée par Sylvie Vartan. Et Sylvie Vartan donc était un peu chahutée quand elle arrivait, parce que c'était l'époque où elle était belle et en même temps, voilà, il y avait des gens qui la contestaient en disant « Elle est belle, mais est-ce que c'est une grande chanteuse ?» Et moi, j'ai vu quand même quelqu'un se faire un peu siffler. Mais à l'époque, les gens avaient des expressions sur leur goût. Maintenant, tout le monde n'a plus d'expression, même à Cannes. Moi, j'ai connu des batailles d'Hernani, maintenant tout le monde est là.
Tout le monde est toujours d'accord.
Voilà, tout le monde est d'accord ou tout le monde s'en va. Et là... Et Sylvie, elle a chanté, elle a pris le public à corps, c'est le cas de le dire. Et après, il y avait un autre entracte, mais très court. Je pense qu'elle avait même les musiciens des Beatles. Et après, il y avait les Beatles.
Les Beatles. Donc c'était en fait eux les
vedettes. Et alors, et moi je vais vous dire, celui qui a mis tout ça en truc, c'était la personne qui travaillait à l'Olympia, Jean-Michel Boris.
Bien sûr.
Qui a remis tout dans l'ordre un soir dans un dîner. Parce que Sylvie, à l'entendre, elle était presque avant tout le monde. Et donc, et je vais vous dire une chose qui était un an, c'est que ma marraine, cette fameuse marraine qui m'avait offert ses places, c'était en février 64. Elle m'a offert ses places pour mes 10 ans. Et ma marraine, qui ne parlait pas anglais, qui savait pas qui étaient les Beatles, elle dit, écoute, 2 minutes, t'as envie de rester pour les Beatles? Je dis, non, pas du tout. Et on a quitté l'Olympia. Je suis le seul à ne pas avoir vu les Beatles.
Carrément.
Ah oui. Alors, on est parti. On voulait rester sur l'impression que Sylvie Vartan nous avait donnée. Et surtout, moi, j'avais pas supporté, je m'en souviens très bien, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas, que je ne supportais pas qu'elle soit sifflée en arrivant.
Ah bah oui, je comprends, parce que les gens qui attendaient les Beatles, ils n'avaient pas envie de passer par
c'était reste. Mon idole.
Bah évidemment. En tout cas, donc, Dominique Besnéard, vous l'avez dit, ensuite, ayant quitté la Normandie, vous avez fait l'école de la rue Blanche, et puis vous avez fait vos débuts dans le métier, grâce en particulier à Doyon.
Jacques Doyon.
Jacques Doyon, à qui vous dites toujours « je lui dois tout ».
Et Claude Berry.
Le 18 mars 1975, il m'a engagé.
Et Claude Berry aussi.
Claude Berry,
qui ensuite m'a rencontré sur le sac de billes et a décidé de m'aider. Voilà.
Voilà.
C'est des gens qui ont été importants. Et Jacques Doyon, je rêve qu'il refasse de lui produire un film.
Ouais.
Mais quelquefois, c'est un peu compliqué, alors qu'il a une filmographie absolument parfaite. Quand on voit tout, je pense que c'est le meilleur metteur en scène qui sait diriger si bien les enfants.
Et alors, donc, vous êtes devenu directeur de casting, de plus en plus recherché. Mais dans ces premières années de votre métier, il y a eu une grande aventure musicale, si je peux dire, puisqu'on est sur France Musique. Ça a été Diva, avec, bien évidemment, cette chanson tirée de l'opéra La Wally. Comment ça s'est passé, cette histoire?
Ah bah, c'est pas moi qui ai choisi, mais Jean-Jacques Benex, c'était son premier film. Oui. Du reste, c'est pas le film qu'il voulait faire, c'était un film de commande. Oui. Mais il a su entraîner ça dans son univers, il a créé un univers. Oui. Et c'était un bouquin de Della Corta qui s'appelait Diva. Et à l'époque, on me demandait, alors moi, j'étais très, très spécialiste pour trouver les enfants, les adolescents ou les jeunes comédiens. Et on m'a dit, il faut que tu cherches une diva. Et donc, j'ai commencé à chercher partout, dans les opéras. J'ai eu rendez-vous avec les directeurs de l'opéra de l'époque. Et on a même été voir Barbara Hendricks, qui avait un manager allemand très antipathique. Et elle nous a
reçus. Dans vos souvenirs, vous n'hésitez pas à le dire quand les gens sont antipathiques.
Et elle nous a reçus avec lui. Et il a fait comprendre que c'était pas digne d'elle d'aller faire un film avec un débutant. Et donc, on a cherché, jusqu'à avoir été mis sur la piste par le directeur de l'opéra de l'époque, Bernard Lefort, qui était un homme extraordinaire. Et Bernard Lefort m'a reçu. Moi, j'étais qu'un jeune casting, j'étais pas très connu. Ouais. Et il m'a reçu, il m'a dit, vous savez, vous faites fausse route. Parce que vous allez voir toutes les grandes divas qui sont prises des années avant. C'est là que j'ai compris que leur contrat, elles signaient 3 ans avant. Donc, elles seront pas libres pour les dates du tournage. Prenez une fille, peut-être, qui attend de venir. Donc, il m'a dit, mais profitez, venez là. On a une fille qui vient des États-Unis, une blague assez belle, qui est pas connue. Et elle s'appelle Willina Fernandez-Wiggins. Et vous pourriez la voir. Elle est en ce moment dans Mimi, dans la Bohème. Et elle est celle qui fait l'air de Mimi. Et j'y suis allé. Et elle l'a fait. Et je vais vous dire, la première fois qu'on est allé la voir avec Benex, parce que j'ai d'abord été la voir seule et après elle est venue, et alors je la trouvais parfaite, mais elle avait un problème, c'est que vous avez les dents écartées comme si
les dents du bonheur, comme on dit.
Les dents du bonheur, mais elle n'avait pas les dents du bonheur, on avait l'impression qu'il lui manquait une dent.
Oui,
et je dis, mais comment on va faire et tout. Et là, la vie, et Marlène Jobert, toujours amie et présente, son mari était un grand dentiste et c'est lui qui lui a mis cette fausse dent.
Ah oui.
Et donc, Et avant chaque prise, elle mettait sa fausse dent, voilà.
L'air de La Wally, arrangé par Joseph Kosma, d'après la musique de Catalani. C'est donc la bande originale de Diva en 1981, des nombreux films auxquels vous avez plus que contribué, Dominique Besnéard, puisque vous êtes devenu le découvreur le plus recherché du cinéma français. Il y a d'ailleurs des anecdotes assez drôles, comme pour ce film, à vos tout débuts, je crois que c'est Un sac de billes, vous étiez chargé pour aller recruter des jeunes Allemands dans les campines pour leur faire jouer des rôles de Nazi.
On en parlait. Alors, j'ai revu Le sac de billes. Et vous savez que tout sur France 5, donc c'est le service public, je peux en parler. Tous les lundis, je fais Place au cinéma où je parle d'un film de ces années-là. Oui. Et à la rentrée, on va le présenter, Le sac de billes. Oui. Et vraiment, la version de Jacques Doyon, elle est vraiment formidable, d'une modernité. Oui. Et avec tout ce qui se passe en ce moment et tous les mouvements antisémites et tout ça, je pense que ce film sera très bien reçu à la rentrée sur France 5.
Enfin, d'aller voir des jeunes blonds plutôt un peu hippies à l'époque, ou néo-hippies,
oui, non, mais
on leur demandait de jouer des rôles de soldats
du Reich. Je
peux
même vous dire, maintenant on les livre, j'ai même une histoire avec un jeune acteur qui faisait un officier allemand.
D'accord. À l'époque, donc, du sac de billes. Et puis après, bon, on le sait aussi, vous avez découvert des grandes figures du cinéma, de Juliette Binoche à Béatrice Dalle et à beaucoup d'autres. Ce qui est amusant aussi, pour en rester à la chanson, c'est que vous avez très vite repéré un tout jeune homme qui n'était pas encore chanteur à l'époque, qui travaillait plutôt dans les bars des Halles, c'était Florent Pagny.
Non, je cherchais pour, justement, Diva. Oui. C'est lui qui devait faire le rôle principal avec Benex. On l'avait adoré, mais la productrice n'en voulait pas parce qu'elle trouvait qu'il était vulgaire, ouais. Parce qu'elle a confondu le côté populaire à vulgaire, et alors qu'il avait il aurait été extraordinaire. Mais en même temps, moi, j'ai pas laissé tomber. Je lui ai dit, écoute, tu feras pas Diva, mais tu feras autre chose. Et je lui ai trouvé un agent. Et ensuite, elle a tout de suite vraiment commencé à travailler. Et alors, la chose qui était merveilleuse, c'est que quand je l'ai arrêté dans ce bar, j'avais lui demandé, ça s'appelait le Broad, et je lui avais demandé de mettre une affiche pour dire que je cherchais un jeune acteur qui pouvait chanter, qui aimait la musique. Et il m'a dit, mais c'est moi, parce que moi, je suis au conservatoire de Levallois-Perret, ou je sais pas, où il chantait Luis Mariano.
Voilà, c'est ça.
Et il a commencé à... Ça l'a pas empêché d'être un acteur et d'être un chanteur. Là aussi, c'est compliqué, parce que c'était un très bon acteur, Florent. Mais la chanson, il y a que Bruel qui arrive à faire les deux. Mais, et puis, parce que...
Autrefois, c'était presque pas une règle, mais enfin, les grands acteurs du passé,
oui,
étaient souvent chanteurs aussi.
Mais ils ne faisaient pas
Arletty, Gabin, Bourville.
Oui, mais attendez, ils chantaient dans des films, mais c'est pas des chanteurs. Et Dutronc m'a toujours dit qu'il a commencé à marcher comme acteur quand il n'a pas continué à chanter. Ouais. Et il y a que, alors vous allez me dire maintenant, Lady Gaga, qui en plus est une actrice formidable, va peut-être permettre de ne pas figer les catégories.
Ouais. Ce qui est amusant aussi, c'est que celle qui vous a un petit peu parrainé dans le métier du casting, qui était Margot Capelier, alors elle, c'était vraiment beaucoup plus la chanson de gauche, hein, la chanson
Elle était très...
etc. Vous, c'était la chanson populaire, elle, c'était la chanson à texte.
Non, mais elle était Francis Lemarque, Pia Colombo, du reste, Francis Lemarque était un membre de sa famille, c'était son beau-frère.
Elle fait partie du groupe Octobre.
Voilà, tout ça, donc elle était... mais c'était une femme extraordinaire, Margot Capelier, c'était entre Piaf et Golda Meir physiquement. Elle changeait pas, elle avait toujours la même tête.
Et alors, dans le sillage, et après Margot Capelier, vous êtes devenu vraiment le directeur de casting le plus recherché de France. Et c'est drôle parce que on découvre dans ce livre que vous avez publié il y a quelques années, Casino d'hiver.
Il est ressorti en poche.
Qui ressort en poche. On découvre que c'est aussi un enfer d'être un directeur de casting très, très recherché et très connu, parce que vous aviez sans arrêt l'assaut de tous ceux qui cherchaient des rôles et c'est pas si drôle que ça.
Je pense que c'est encore pire maintenant.
Ah bon?
Parce qu'ils sont énormément nombreux, les castings. Moi, à l'époque, on était quatre. Il y avait Margot, il y avait Françoise Mildré, Mamad et moi. Et voilà. Et on était quatre et on avait le marché.
Il y en a qui faisaient les sièges, qui vous suivaient.
Ah oui, mais moi, j'étais même obligé de déménager.
Ouais.
Parce que j'habitais rue des Cinq Diamants, à la Butte aux Cailles. C'était une belle adresse, rue des Cinq Diamants. Et je suis parti à Gentilly parce que je pouvais plus, le matin, les gens m'attendaient. Mais c'était aussi, ça a commencé où on est un peu vulgaire. Il y avait des revues de cinéma où on cherchait des jeunes comédiens, on faisait des annonces. Donc tout le monde voulait tenter sa chance. Et puis c'est moi aussi qui suis quand même responsable de quelque chose d'assez grave. C'est moi qui ai inventé l'acteur Kleenex. C'est-à-dire qu'on prend un acteur pour un rôle, parce qu'il correspond, parce qu'il a du charme ou parce que la fille a un côté voilà attractif. Et puis il y a eu beaucoup de dégâts parce que ces gens,
trois films et puis ça s'arrête.
Voilà, ces gens ont gagné de l'argent assez vite et puis après ils sont tous tombés dans la drogue et je peux vous dire que les rescapés, ils sont pas nombreux. Et par exemple Simon de la Brosse qui était un acteur merveilleux qui avait quelque chose de Patrick Devers, et ben il est mort à cause de la drogue. La drogue à cette époque dans les années 80, il a fait énormément de dégâts.
Alors aussi, il faut dire, bon, c'est propre évidemment au métier d'artiste quand on veut, mais le problème de tous ces gens-là, c'est comme dit Jeanne Moreau, qu'ils voudraient tous être le nombril du monde.
Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde, le nombril, la lune aussi est le nombril du monde, la lune aussi est le nombril du monde. Je t'ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore. C'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde. Je suis le nombril du monde, tu es le nombril du monde. La lune aussi est le nombril du monde, je t'ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore, c'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril du monde, je suis le nombril du monde. Le nombril du monde, le nombril, la lune aussi est le nombril du monde, la lune aussi est le nombril du monde. Je t'ignore, tu m'ignores, la lune aussi nous ignore, c'est égal, on est quand même tous le nombril du, on est quand même tous le nombril.
Le nombril du monde, musique de Philippe Gérard, paroles de Norge. C'était Jeanne Moreau, un disque que j'adore de 1989, Dominique Besnéard. Jeanne Moreau, grand Jeanne personnage Moreau, aussi de votre vie.
Ouais, et puis surtout, on vient d'inaugurer son allée, l'allée Jeanne Moreau. Elle est juste entre deux cinémas, sur les quais de Seine. Je pense que ça va être le rendez-vous des amoureux et voilà, et peut-être des nombrils du monde aussi.
Alors elle, contrairement à Aline Renault ou à Sylvie Vartan, elle avait déjà une immense carrière cinématographique quand vous l'avez connue, mais vous l'avez quand même entraînée vers des nouvelles aventures, on peut
dire. Oui, et puis surtout, vous savez, c'est pas quelqu'un
qu'on
tapait sur la. Et c'est un peu elle qui m'a décidé, c'est elle qui m'a même pas demandé si je voulais être son agent. C'est elle qui m'a dit. Non, je l'ai rapproché à l'époque de Claude-Éric Poirot, parce que ce qui était fort chez Jeanne, c'est qu'elle s'intéressait au cinéma. Elle était très sérieuse. Elle savait tout. Oui. Du reste, on pouvait appeler madame, je sais tout.
Oui,
mais
vrai.
Elle, c'était vrai. C'était pas des gens qui pensaient qu'elle savait tout. Il y a eu toute la période José Dayan. C'est comme ça, on s'est rencontrés tous un peu ensemble. José lui a dit un jour, mais écoute, c'est Dominique qui doit être ton agent. Parce qu'elle en avait fait plusieurs. Parce que Jeanne, c'était pas seulement de discuter ses contrats, parce qu'elle c'était une femme quand même qui avait les pieds sur terre.
Ouais.
Mais elle avait envie de parler, d'échanger sur un livre,
exactement,
d'échanger sur un film. Et voilà, et elle était au courant de tout.
Alors c'est amusant en plus cette chanson, parce que pour revenir à ce tempérament de beaucoup de comédiens ou de comédiennes, je voyais dans une de vos interviews, évoquant une de vos grandes amies, vous disiez « La grande qualité de Nathalie Baye, c'est qu'elle ne croit pas qu'elle est le nombril du monde. »
Non, elle est très... C'est quelqu'un qui, du reste, elle est danseuse. Attention, elle a fait de la danse.
Oui.
Elle aurait dû être danseuse. Elle a été assez haut placée dans la danse. Et c'est vrai que comme ça ne s'est pas fait, elle a une vraie discipline. Comme Jeanne, elle a une mais voilà, c'est pas quelqu'un qui parle d'elle, qui regarde des photos. Je veux dire, du reste, elle passe jamais un coup de fil à un metteur en scène pour dire j'aimerais tellement tourner avec vous. Faut dire qu'il y en a beaucoup qui le font et qui le font bien. Donc voilà, c'est en même temps, c'est ça qui fait aussi. Ben, on a quand même, on connaît tous les deux Xavier Beauvois avec
Nathalie Baye.
Ça m'étonne pas qu'ils soient proches parce qu'elle a un côté authentique.
Oui, c'est vrai. En tout cas, vous êtes devenu, donc, après avoir été directeur de casting, un des agents de la grande maison Armédia. Ça m'évoque toujours d'ailleurs ce personnage un peu mythique qui était Gérard Lebovici, mais vous, c'était un peu juste après. Mais,
quand je suis rentré chez Armédia, du reste, Gérard Lebovici, quand j'étais casting director, il avait voulu me rencontrer.
Ouais.
Parce qu'il quittait Armédia où il était encore. Parce qu'après, il a fait une maison de distribution très importante et il est devenu distributeur, et quand il y a la loi à l'époque, c'est qu'on pouvait pas être producteur et agent,
ouais,
et encore moins distributeur. Donc il a vendu Armédia quelque temps avant, peut-être un an ou deux. Il avait voulu déjeuner avec moi pour dire voilà, ça, vous devriez devenir agent, parce que casting c'est vous amuser, mais à un moment donné vous êtes plus sérieux que ça. Vous pouvez discuter des contrats, monter des films. Et la première fois, honnêtement, c'est pas très bien passé. Je l'ai trouvé pas très sympathique, un peu prétentieux. Et puis je me suis dit mais c'est pas lui de décider ce que je dois faire. Peut-être que je le ferai plus tard, mais j'ai encore envie de m'amuser en faisant du casting, parce que ce qu'on oublie, c'est que le casting, c'est quand même une profession extraordinaire. On voit des acteurs toute la journée, on voit des spectacles, on voit des films, on reçoit des gens, on essaye de mettre des visages en face des personnages. Quelle profession mieux que ça?
Ouais.
Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était fouiller. Ouais. Puisque vous aimez beaucoup Suzy Delair, moi, quand je fais du casting et que Marco Capellier me dit, écoute, Dominique, je vais te présenter Suzy Delair. Il faut que tu la vois, il faut qu'elle tourne. Et je dis, ben, je veux bien. Et peut-être c'était pour le film de Rapneau, Tout feu, tout flamme, pour faire La mère de mon temps. Donc elle était peut-être un peu jeune, mais enfin bon. Et j'ai rencontré Suzy Delair. Et moi, j'étais heureux d'aller voir Suzy Delair.
Ah oui, bien sûr.
Et quand...
Mais pas très loin de la maison de la radio maintenant, cette chère Suzy, 101 ans.
Et oui, mais si vous voulez, moi, c'était quelque chose. Quand Brigali m'a dit, est-ce que tu veux déjeuner avec Arletty? Je dis, mais c'est vrai. Avec Arletty, on a déjeuné avec elle. Elle était très aveugle. Et lui parlait. J'ai pas beaucoup parlé avec elle, mais je l'ai écouté. Mais c'était une chose extraordinaire de rencontrer. Quand j'ai voyagé un jour avec Pierre Dux en tête à tête, qui m'a parlé de la Comédie française au moment de l'occupation, où c'était carrément, c'était terrible. C'était la comédie humaine dans ce qu'il y a de pire. Mais moi, ça m'intéresse. Et j'ai l'impression, alors, je vais pas dire c'était mieux avant, il a raison, Michel Serres, sinon on est des vieux cons, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la curiosité, l'envie de savoir pourquoi on fait ce métier, d'où on vient, je trouve que ça vous donne des armes pour la suite.
Voilà, et c'est merveilleux d'évoquer avec vous toutes ces rencontres. On pourrait en ajouter encore beaucoup, Micheline Prel, par exemple.
Micheline Prel, mais moi, j'ai Daniel Darieux, Micheline Prel, et voilà. Et ne parlons pas de ça, j'aime aussi les générations suivantes, parce que quand même, Marlène Jobert a été l'actrice que j'ai vraiment aimée quand j'étais adolescent, et pour moi j'aimais parce qu'elle avait le côté de la fille à côté, la femme d'à côté,
ouais.
C'est-à-dire qu'elle est belle, sexy, mais on peut lui adresser la parole. Donc ça, c'est pour ça que j'aimais beaucoup Marlène Jobert. Voilà, et Marlène Jobert.
Et on va en évoquer encore quelques-uns, mais j'ai envie qu'on fasse un petit détour par le cinéma musical, qui malheureusement peut-être n'a pas la place qu'il devrait avoir en France, en écoutant un petit extrait. Alors là, c'est la comédie musicale dont a été tiré le film, Dirma la Douce, chanté par Colette Renard.
Ah là là.
Dis donc ce que tu me plais, j'en suis dingue. Oh dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, c'est toi qui me fais du gringue. Oh non, c'est pas du pauvre, je suis bien mordu pour ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi. Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, je sais pas ce qui m'arrive là. Ah, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, tous les jours c'est gala. C'est pas du boniment, du bidon, car je sens battre mon palpitant quand je te vois. C'est idiot, mais c'est comme ça qu'un jour ou l'autre on est mordu. Tant pis pour ce qu'on en dira, qu'on est des caves ou des tordus. Oh, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, l'amour quand ça. Ah dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, ce que je vais le gâter, mon môme. Ah non, c'est pas du pour, je suis bien mordu pour ta jolie gueule d'amour, ma gueule à moi.
Colette Renard dans Irma la Douce, qui a été une merveilleuse comédie musicale, reprise d'ailleurs régulièrement avec succès, encore à la Porte Saint-Martin il y a pas si longtemps, hein, Dominique Besnéard, ouais. Adaptée également aux États-Unis au cinéma. Mais pour en rester à Colette Renard, je m'amusais aussi de voir dans vos souvenirs que vous l'avez croisée à un certain nombre de reprises, ouais. Cette grande chanteuse, notamment quand vous travaillez avec Maurice Pialat.
Oui, je voulais qu'elle fasse la mère dans Passe ton bac d'abord. Et franchement, elle est partie, elle a eu raison, parce que Pialat, c'était un personnage.
Un personnage invraisemblable.
Unique, mais
hein.
Unique. Et à la fois, il avait envie d'être gentil avec les gens. Et puis, de temps en temps, il pouvait pas les rater. Et comme il était arrivé en retard, je sais pas, parce qu'il avait un problème pour se lever le matin. Et je sais que Colette Renard avait très peu de temps à nous accorder parce qu'elle était en tournée. Mmh. Et elle est arrivée. Et il lui a dit, mais ça va, vous travaillez encore? Ça, vous arrivez à en vivre? Il a été très, limite désagréable. Et alors, elle avait un manteau de vison. Je me souviens, c'était l'hiver. Elle a dit, oh, oui, ça va quand même. Et alors, elle lui dit, bon, mais vous êtes trop belle et tout ça. Et là, elle lui a rentré dans un, dit, non seulement vous me faites attendre et vous êtes à la limite pas très agréable. Et elle est partie. Et moi, donc j'étais dans un état, parce que moi, on traite pas Colette Renard comme ça. Après, il a voulu s'excuser, tout ça. Et elle m'a appelé et elle m'a dit, monsieur, j'ai vu tellement vous m'aimiez et tellement il vous avait blessé aussi. Ah oui, et donc, c'est comme ça que j'ai parlé la première fois après. Et puis, de temps en temps, j'ai été la voir à Bobino, où j'ai été la voir, elle avait fait l'Olympia aussi, où elle chantait des chansons un peu olé olé. Des,
ah oui, elle a, les nuits d'une demoiselle.
Voilà, toutes ouais. Ces chansons un peu érotiques, poétiques aussi. Ouais. Et puis, alors, une des dernières fois où je l'ai vue, c'est Shirley MacLaine chantait, elle avait fait la chanson, elle était allée au Palais des Congrès, elle passait quelques années après au Casino de Paris. J'étais allé avec Jean-Claude Brialy la voir et donc on y a... Et c'est... Franchement, j'avais été surpris que la salle ne soit pas pleine. Mmh. Que les gens n'aient pas... Elle faisait un soir qu'elle ne remplisse pas le Casino de Paris. Mais elle tournait moins, elle faisait peut-être cette tournée européenne. Et tout d'un coup, on attendait devant sa loge, il y avait des gardes du corps et arrive, donc Jean-Claude rentre en premier certainement et cette femme, une femme brune arrive, Colette Renard et on la refoule. Et il dit, mais madame, vous n'êtes pas sur la liste et tout ça. Et Brialy, je dis, mais attendez, j'appelle Jean-Claude. Et elle est venue, et là, les mecs, quelquefois, les gardes du corps sont un peu nunuches. Hein. Ouais. Ils ont ouvert la porte, et là, quand elle l'a vu, Shirley MacLaine lui l'a pris dans ses bras, dit, mais c'est grâce à vous et tout ça. C'était tellement émouvant que de voir que tout d'un coup, une actrice comme Shirley MacLaine, une star mondiale, prenne dans ses bras, mais merci, c'est tout ça, c'est grâce à vous.
Il faut dire, Dominique Besnéard, que vous avez passé pas mal de soirées avec Briali, avec aussi un personnage moins connu, qui était un de ses amis, Sacha Briquet, à évoquer tout ce passé du musical, etc.
Ils étaient tous les deux, ils pouvaient être tous les deux des punaises quand même, parce qu'ils adoraient un peu critiquer le monde. Mais ce qui est beau chez Jean-Claude Briali, c'est que Jean-Claude Briali, il avait quelque chose d'un peu du panache.
Voilà,
et puis, quelquefois, Sacha était un peu plus vert, un peu plus terrible, un peu plus mesquin. Ouais. Alors, mais en même temps très drôle.
Alors, je disais qu'Irma la Douce a été adaptée aux États-Unis en comédie musicale filmée. Donc, moi, j'ai parfois l'impression, puisque je m'intéresse tellement à la chanson, au musical, à l'histoire du musical français, que les Américains, même les Anglais, savent assez bien quand même faire revivre au cinéma leur histoire dans ce domaine, et que les Français ont un petit peu de mal. C'est vrai qu'Alain René a tourné une opérette et quelques films sur la chanson, mais enfin...
Il n'y en a pas.
Ça, pourquoi ça marche pas en France? Ça coûte trop cher.
Oui, c'est vrai que bon, il y a ça en Amérique, mais enfin, il y a plus beaucoup de comédies musicales non plus en Amérique. Quand vous voyez,
on revisite le passé, on refait certains films quand même, non?
Il y en a pas beaucoup, je trouve. Je comprends pas, mais du reste. Il y avait Demi quand même.
Voilà.
On n'a pas beaucoup, hein, c'est vrai, vous avez raison.
Ouais, vous qui êtes producteur, après avoir été agent, vous pourriez aussi
initier... Non, c'est drôle parce que j'ai une amie scénariste qui travaille chez Agnès B et qui a un projet de série sur la mode et la chanson. C'est drôle.
Ah, voilà. En tout cas, voilà. J'espère que ça finira par changer. On a évoqué pas mal de personnalités que vous aimez, Dominique Besnéard, pour cette émission un petit peu festive, là, avant l'été. Mais bon, c'est pas une chanson très drôle. Je voudrais qu'on évoque quand même quelqu'un que les gens ne connaissent plus, qui était aussi une merveilleuse chanteuse, qui s'appelait Betty Mars.
Oui, vous savez que Betty Mars, elle était la vedette de l'Alcazar. C'était la vedette de l'Alcazar avec Dany.
À l'époque de Jean-Marie Rivière.
Jean-Marie Rivière, mais c'était là où c'était bien quand même.
Oui, bien sûr,
moi, j'y allais souvent.
Oui.
Et Betty Mars, c'était...
Le dernier musical parisien digne de ce nom, on peut dire.
Oui, puis Betty Mars, c'était une chanteuse réaliste qui avait été chanteuse au Concert Mayol. Qui se souvient du Concert Mayol? Et moi, je la connaissais parce qu'elle était amie d'un ami de ma famille. Donc pour moi, Betty Mars, c'était quelqu'un qui amenait le rêve quand j'étais petit. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'elle a même chanté... Je crois qu'elle a chanté Piaf dans un film autour de Piaf. Elle a fait la voix de Piaf. Mmh. Et c'est vrai qu'honnêtement, on n'en parle jamais. Et elle s'est suicidée, vous savez.
S'est suicidée,
par
exactement.
La fenêtre, hein.
Oui.
Et franchement...
Parce que ça ne marchait pas? Ou parce qu'elle était dépressive, on ne sait jamais.
Mais Frédéric Botton l'aimait beaucoup, oui. Comme il aimait Dany.
Oui.
Et Frédéric Botton, un jour, j'ai eu une compilation de ses chansons, et je m'aperçois qu'elle a des chansons réalistes, mais très belles. Et voilà.
Et celle-ci, Soir de première?
Je l'adore parce que Soir de première, j'ai l'impression que je sais ce que c'était que les premières. Et qu'une femme qui vient voir un homme qu'elle a aimé, et elle n'est plus la préférée, et elle n'est plus l'invitée d'honneur de Soir de première, ça touche, voilà. Et la voix est merveilleuse.
C'était un grand soir de première. Il y avait du monde plein à craquer. Quand on a éteint les lumières et que le rideau s'est levé, vous êtes apparu sur la scène, monsieur, comme vous étiez beau. C'est mon cœur qui a fait des siennes quand j'ai entendu les bravos. C'était un grand soir de première. Il y avait là tous vos amis. Vous avez tout fait pour leur plaire. Monsieur, vous avez réussi. Vous êtes une grande vedette. Debout on vous a réclamé. Ce fut vraiment un soir de fête. Je ne suis pas prêt de l'oublier. Moi, j'avais payé ma place. Vous ne m'aviez pas invité. On n'est pas de la même race. Je vous aurais déshonoré. C'était un grand soir de première. Dans votre loge, il y avait des fleurs. Il y avait presque la salle entière pour partager votre bonheur. J'aurais voulu vous voir en face. Je n'ai pas osé approcher. Les télégrammes sur votre glace m'ont beaucoup trop impressionné. C'était un grand soir de première. J'étais bien la seule à pleurer. Pour moi, c'était une dernière. La veille, tu m'avais quitté.
Betty Mars, une belle chanson enregistrée donc en 1974, chanson d'ailleurs de Pascal Auria et Pascal Sevran.
Il avait fait aussi, il venait d'avoir 18 ans, bien sûr, c'est incroyable. Ouais. Hein.
Merci de faire revivre tout ça pour nous, Dominique Bessner, c'est un plaisir de parler de chansons avec vous. Il y aura encore des dizaines de sujets à évoquer, mais puisque vous êtes là, on peut peut-être parler quand même un petit peu aussi de l'actualité, parce que je l'ai dit, après avoir été directeur de casting, puis agent, puis producteur, vous êtes toujours d'ailleurs producteur, vous avez produit beaucoup de films ces dernières années, mais aujourd'hui, alors il y a une chose aussi à laquelle vous vous êtes mis... peut-être dans l'air du temps ou pas, c'est la série et ça marche très fort avec oui. 10% qui entame sa quatrième saison.
Oui, on est en écriture. Non, bah écoutez, moi je suis content d'avoir été à la base de ce projet, sachant que c'était un peu autobiographique, ne serait-ce que sur l'univers que cette série décrit, des personnages. Je me retrouve un petit peu dans le personnage de Gabriel. Ouais. Et puis le personnage de Camille Cotin, c'est un peu, elle le dit, on est même très contente, c'est un peu Elisabeth Tanner. Donc voilà, c'est cette
vérité. Aspirant au succès.
Et alors, donc c'était pas gagné hein, parce qu'on a eu beaucoup de mal, parce que les gens pensaient que ça allait être, on se faisait plaisir, ça n'intéresserait personne. Et en fin de compte, je pense que l'intérêt vient que des gens travaillent beaucoup pour être souvent dans l'ombre. Moi, j'étais peut-être un peu trop dans la lumière, mais dans l'ombre, pour que des acteurs puissent être au mieux d'eux-mêmes, réalisent leurs souhaits. Et je trouve que c'était pas gagné. Et
les producteurs n'y croyaient pas beaucoup. Enfin, les diffuseurs n'y croyaient pas beaucoup.
Les diffuseurs n'y croyaient pas du tout. Mais là, je suis en train de faire une série sur le cabaret de Paris. Eh bien, pour le moment, personne, alors que ça pourrait être extraordinaire. Ouais. Les gens, vous savez, le problème, c'est que nous, c'est un peu dur ce que je veux dire, mais souvent des décideurs maintenant sont un peu incompétents intellectuellement. Ils ont pas de culture. Et moi, quand j'ai commencé ce métier, un des premiers rendez-vous que j'ai eu, c'est Pierre Desgros. Pierre Desgros, il m'a reçu, j'étais jeune, et je suis passé 4 heures avec lui, sorti de là. J'avais appris plein de choses. Ouais, ouais. Il savait tout, l'opéra, les acteurs, et puis la culture. Et on peut pas, et souvent, les gens qui sont des décideurs n'ont pas vraiment de culture.
Entre parenthèses d'ailleurs, puisqu'on évoque toutes ces aspirations à la vie d'acteur ou de comédien, vous-même, quel regard vous jetez sur votre carrière d'acteur?
Alors, comme acteur, moi j'ai quand même fait, on me dit, 90 films. Oui. Bon, il y en a où j'ouvre la porte et dis une réplique.
Oui.
Mais c'est vrai que moi, ça m'amuse de tourner 2-3 jours. Plus longtemps, c'est voilà. D'abord, le problème pour être acteur, il faut être concentré.
Ouais.
Et concentré que là-dessus, avec tout ce que je fais à côté. Ouais, et voilà. Et moi, j'ai fait une seule fois du théâtre au théâtre du Rond-Point, Monsieur Pipi, où j'avais vraiment aimé faire ça. Et en même temps, j'ai adoré la dernière pièce de Pierre Barillet.
Oui.
Et je me suis dit, mais c'est vraiment l'impression que c'est un rôle écrit pour moi. Mais je veux dire, il faut être concentré, c'est-à-dire qu'on ne faut rien faire d'autre. Et moi, je ne peux pas.
Elle a été publiée, mais pas montée.
Oui, mais ça s'appelle La Réponse.
Oui, oui.
Elle est extraordinaire. Et je me suis identifié dans le rôle du critique musical. Ça pouvait être aussi un agent, un producteur. Et j'ai trouvé, mais j'adore cette pièce. Mais je me dis, ben voilà, est-ce que je suis capable de prendre un an sans faire ce métier, voilà.
Et puis alors cet été, donc Dominique Besnéard, on vous retrouvera aussi au Festival d'Angoulême, hein, à la fin du mois d'août.
Entre le 20 et le 25 août, c'est la 12e édition. Et nous, ça y est, on fait des soirées musicales maintenant.
Ah, voilà.
L'année dernière, il y avait un film québécois, il s'appelait La Bolduc.
Ah bah, et sur cette grande chanteuse.
Et donc, on a fait une soirée Bolduc.
Ah
et
oui,
aussi, on a fait Guy de Alex Lutz. Et on a fait un concert après, justement, avec Dany, avec Alex Lutz, etc. Donc, on va dans toute une partie musicale maintenant.
Ah bah alors, rendez-vous musical donc à Angoulême fin août, hein, pour ce festival dont vous vous occupez depuis pas mal d'années maintenant.
Bah, c'est la 12e année.
12e année, Dominique Besnéard. Et puis on va se quitter avec, vous allez nous en dire quand même quelques mots aussi, une autre chanteuse que vous aimez beaucoup, c'est Nana Mouskouri.
Ah ouais, j'adore Nana. D'abord, j'aime la chanteuse, mais j'ai aimé la chanteuse star. Hein,
ouais.
Parce que c'est vrai que quand j'étais gamin, que ma mère la regardait dans Télé Dimanche avec ses lunettes, moi je vous avoue que elle chantait...
C'est bien peu de mal.
Et voilà, et moi que je préférais un peu peut-être la voix moins assurée de Sylvie Vartan et comment elle bougeait. Mais bon... C'est pour vous dire, mais en même temps, la vie a fait que je l'ai rencontrée. Et je me souviens d'une phrase que je lui ai dit quand je suis rentré dans la loge. « J'ai honte de vous découvrir si tard. » Et là, on est devenus amis. Et en plus, j'ai produit un documentaire sur ses premiers adieux, parce que je crois qu'elle en est au troisième ou quatrième.
Ah oui, ça, ça.
Et on était allé à on a été à l'Acropole. Et j'ai fait un documentaire sur elle. Et c'est vrai que c'est une, d'abord, c'est une grande chanteuse, c'est une femme d'exception. Ouais. Quand je dis ça, c'est une femme généreuse. Et ça se sent. Et moi, j'étais un jour la voir à Londres. Et à Londres, elle est très aimée en Angleterre. Uh-huh. Et j'ai jamais vu autant de femmes qui ressemblaient à Nana Mouskouri avec des lunettes. Et c'était, voilà. Et c'est vrai que c'est bien. Et alors, elle a sorti cet album en hommage à Michel Legrand. Voilà.
Et j'espère bien d'ailleurs qu'elle viendra nous voir au cours de la saison prochaine, Nana Mouskouri. Mais en tout cas, merci Dominique Besnéard. On va justement se quitter avec Nana Mouskouri en duo avec Michel Legrand.
Bah, c'est très bien.
Et puis alors, vous, inutile de dire que si vous voulez venir parler de chansons à nouveau, hein, vous êtes le bienvenu.
Ah ouais, parce que depuis le temps que j'avais dit que je la ferais, bah, je suis ravi de l'avoir fait maintenant.
Merci Dominique, à bientôt.
Passer l'été à Paris quand on s'aime.
On peut se croire à New York, 5 heures du soir, 5 o'clock, ou dans un square de Bangkok quand on s'aime.
On peut marcher la mer, danser autour de la terre, se balancer dans les airs.
On peut tout faire quand on s'aime, quand on s'aime. Écoute, écoute le temps, moi je le trouve hésitant, puisqu'il varie tout le temps entre vos fixes et
soleil en soleil, nuit et jour quand on s'aime. Oui, quand on s'aime.
On peut marcher
sous la pluie,
prendre le thé
à minuit,
passer l'été
à Paris.
peut se croire.
On peut se croire à New York.
À New York, 5 heures du soir.
5 heures du soir, 5 o'clock.
5 o'clock, ou dans un square.
Ou dans un square de Bangkok.
De Bangkok, quand on s'aime. Ah, 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 de Terry.
On peut marcher à New York
sous la pluie,
prendre le thé
5h du soir,
5 o'clock,
à minuit,
passer l'été
dans un square,
à Bangkok,
à Paris, quand on s'aime. Se balancer,
on peut marcher sur la terre,
dans les airs, danser le tour,
danser autour de la mer,
de la mer, prendre l'été,
prendre l'été pour l'hiver,
pour l'hiver, quand on s'aime.
Quand on s'aime, c'était Nana Mouskouri et Michel Legrand en 1965. Ainsi s'achève cet entretien avec Dominique Besnéard que vous pourrez donc retrouver à la fin du mois d'août au Festival de cinéma d'Angoulême.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et nous, eh bien, vous savez, nous allons nous retrouver tout l'été parce que France Musique vous propose chaque samedi à 17h la rediffusion d'un des grands entretiens d'Étonnez-moi Benoît, en remontant d'ailleurs presque jusqu'aux sources de cette émission en 2001 pour certains de ces entretiens, et puis des choses aussi plus récentes, des disparus, mais aussi des grands personnages encore parmi nous à qui je souhaitais rendre hommage durant tout cet été. Alors le programme, eh bien, il commencera avec Mick Michel, ça ce sera dès samedi prochain à 17h. Et le samedi suivant, je vous inviterai à retrouver le grand Pierre Tchernia. Et puis ensuite, ce sera Zizi Jeanmaire et le merveilleux baryton Jacques Janssen qui chantait aussi bien Péléas que l'opérette. Et puis encore Micheline Dax qui nous parlera de sifflement et autres divertissements. Jacques Loussier ensuite, Françoise Dorin et pour terminer en beauté Serge Lama. Ils seront tous en notre compagnie chaque samedi cet été entre 17h et 18h. Et tiens, saluons celle avec qui nous allons ouvrir le bal, la regrettée et sympathique Mick Michel.
Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a le même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrait devant une orange. Pas plus haut que trois pommes, il lance un défi, un aimable bonhomme qui lui disait « Mon petit ». Un gamin de Paris, c'est une cocarde, bouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tout l'esprit, l'esprit de Paris qui musarde.
Mick Michel, on la retrouve donc samedi prochain de 17h à 18h avec l'entretien que j'avais enregistré en sa compagnie le 2 juin 2009. Mais pour l'instant, sur France Musique, et pour bien terminer la saison, il est temps de retrouver notre ami Serge Elaïque.
Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Les bagages sont prêts?
Complètement.
Vous avez ressorti l'étendeur pour fixer les malles sur le toit de la voiture?
Absolument. Alors, eh bien moi, de mon côté, avant de partir, je vous propose un bouquet musical estival qui va rassembler divers solistes et chefs d'orchestre très à l'aise dans le registre du divertissement, puisque c'est le sujet aujourd'hui. Par exemple, l'exceptionnel pianiste britannique Russ Conway, qui avait repris le bal de Madame de Mortemouille, la mélodie la plus populaire composée par Gérard Calvi.
One of the Songs, c'est le titre donc américain de cette chanson de Gérard Calvi, enfin cette mélodie de Gérard Calvi, célébrissime, ici avec Russ Conway au piano et l'orchestre de Geoff Love en 1966. C'est le bouquet estival de Serge Laïc pour bien rendre joyeux ce début de vacances.
Exactement. Alors le temps d'un disque, eh bien là, c'est le chef d'orchestre allemand Heinz Kissling qui a signé un étonnant voyage international qui nous mène entre autres en Italie avec sa composition tout en finesse, pizzicata milanese.
Heinz Kissling, Pizzicata Milanese en 1990. Voilà une de ces musiques pittoresques que vous avez rassemblées pour nous ce matin, Serge Laïc. Beaucoup de petits morceaux de couleurs et extrêmement contrastés.
Et oui. Alors, ensuite, c'est l'immense musicien américano-canadien qui était Percy Faith qui entre en scène avec un très grand orchestre pour interpréter sa trépidante composition, Keystone Capers.
Thank you.
1964, Keystone Capers par l'orchestre de Percy Faith. C'est numéro 1, 2, 3 de la musique légère, Percy Faith.
Oh bah oui, aux États-Unis, c'est top niveau. Hein.
Top
là,
niveau.
C'est
hein.
Ah, ça, c'est sûr.
Grand certain. Maître du genre, qui aimait déjà beaucoup notre ami Pierre-Marcel Wonder.
Eh oui, PMO. Alors, Benoît, le Royaume-Uni a toujours été la terre d'élection de la musique légère, vous le savez bien, et de très nombreux compositeurs, chefs d'orchestre, ont su lui donner ses lettres de noblesse. Et ils ont écrit d'innombrables pièces descriptives, comme par exemple Scrub Brothers Scrub, interprété par un orchestre dirigé par Ernest Tomlinson.
Scrub Brothers, Scrub, c'est le nom de ce morceau interprété par la radio-télévision irlandaise sous la direction d'Ernest Tomlinson, que je connais d'ailleurs, Serge Laïc, grâce à l'excellente collection de musique légère chez Naxos.
C'est vrai qu'il y en a
où
eu
on
beaucoup,
trouve beaucoup de CD de musique légère britannique.
Et de Richard Eman qui en a fait énormément pour Naxos. Alors, retour en Allemagne avec Horst Jankowski, lumineux pianiste, arrangeur, chef d'orchestre de la RIAS. Je sais que vous aimez que je dise que la RIAS est la radio du secteur américain de Berlin. Il interprète Horst Jankowski de façon cristalline, vous allez écouter, So What's New, musique écrite au départ pour le trompettiste américain Herb Alpert.
Thank you.
Horst Jankowski, c'était le morceau So What's New en 1966, un disque Mercury avec une blonde pulpeuse sur la pochette que vous avez là, Serge Laïc, et vous poursuivez votre florilège de la musique légère.
Exactement, avec là le chef d'orchestre argentin Valdo Di Los Rios, qui fut très connu pour avoir adapté la 40e symphonie de Mozart dans une version pop. Il avait ajouté des instruments tels synthé ou batterie et ça avait fait un véritable tube. Mais Valdo Di Los Rios a aussi enregistré des musiques populaires comme cette superbe version d'El Porón Pompero chantée en son temps par Enrico Macias, entre autres.
El Porón Pompero, c'est difficile
c'est pas facile à dire, hein.
De Valdo de los Rios, toujours en 1966, un choix de mon ami Serge et Laïque.
Alors, qui comme tous les ans, avant de souhaiter un bon été à toutes et à tous, à vous notamment, Benoît, je termine cette chronique précédant les vacances par une version chaque année différente de Holiday for Strings, Vacances pour les cordes, elles ont besoin de se reposer.
De David Rose.
Voilà, tube de David Rose, effectivement. Et je vais vous étonner, Benoît, j'ai découvert une version de Holiday for Strings jouée par votre organiste préféré, Klaus Wunderlich. En voici un extrait, mais auparavant, eh bien, je vous souhaite un excellent été, cher Benoît.
Eh ben, merci. Serge, tiens, une question, vous avez un peu de temps à la rentrée?
Oui.
Vous voulez revenir?
Ah ben, j'aimerais bien.
Parce que nous, on compte sur vous.
Ah hein. Bon, ben, merci beaucoup.
Bonnes vacances.
Merci, bonnes vacances à vous aussi.
Merci à Serge Laïc de m'avoir gardé pour bien finir mon cher Klaus Wunderlich et son orgue dans Holiday for Strings. On retrouve Serge à la rentrée, on se retrouve d'ailleurs tous à la rentrée. Et puis vous le savez donc, on a rendez-vous cet été le samedi de 17h à 18h. Et en attendant donc nos prochains programmes de la prochaine saison, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances, bien sûr avec France Musique. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier. Aujourd'hui, à la technique Pierrick Charles, réalisation Christine Amado. Voilà, et maintenant nous allons tous partir sur la route ensoleillée. Mais nous avons rendez-vous le 30 août prochain pour la première de la nouvelle saison d'Étonnez-moi Benoît. Et sur France Musique, vous avez rendez-vous maintenant avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.